ces trucs-là, le frigo, la télé, la machine à laver, on les a. Hein. Moi, je les ai achetés. Et puis, pour pouvoir payer ces saloperies, ben, ma femme, elle est forcée d'aller bosser caissière au Viniprix. Moi, je suis forcé de bosser tous les jours, 8 heures par jour comme un con, pour avoir ça. Alors non, on peut pas continuer décemment à vivre comme ça. Il y en a un rapport, faut qu'on arrête, qu'on vive moins con.
99.1 HDR, 24h/24, mixte culture.
Sur le site de la Radio du Monde.
Il est 6h à Madrid, même heure à Bordeaux, 4h en temps universel. Vous écoutez Radio France Internationale. Le journal vous est présenté par Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Le sud de la France et la région de Madrid toujours confrontés à des incendies difficilement contrôlables.
Notamment en raison de conditions météorologiques défavorables, la France et l'Espagne où plus de 300 000 personnes ont désormais été évacuées. Et face à ces phénomènes d'ampleur inédite, c'est tout un système d'aménagement des territoires qui est à revoir au niveau continental, préviennent des scientifiques. La situation actuelle en est une illustration parfaite, nous dit une spécialiste dès le début de ce journal. La une ce dimanche, c'est également cette attaque à Berlin. Un véhicule a foncé dans la foule qui célébrait la marche des fiertés dans la capitale allemande. Au moins un mort selon un bilan provisoire. Plus de détails à suivre. Et puis, c'était il y a 3 ans, une junte militaire renversait le président Mohamed Bazoum au Niger. Aujourd'hui, ses avocats réclament toujours sa libération immédiate et sans condition. La barre des 200 000 personnes évacuées dépassée dans le sud-ouest de la France après la propagation des incendies tard hier soir. 55 000 nouvelles évacuations ont été ordonnées aux abords de Bordeaux où la situation reste critique puisque les conditions météorologiques redeviennent défavorables, annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu. Depuis le 1er janvier, 98 000 hectares sont partis en fumée en France, un record historique. Conséquence évidemment des chaleurs extrêmes, elles-mêmes conséquences du dérèglement climatique. Et face à ces incendies d'ampleur inédite, c'est plus qu'une gestion de crise qui est nécessaire. Il faut, selon de nombreux scientifiques, une gestion centralisée des risques avec, au cœur des politiques locales, l'aménagement des territoires. C'est ce que nous dit Pauline Villain-Carlotti, spécialiste de la gestion sociale de l'environnement.
La préparation des territoires, elle concerne la France, mais elle concerne l'ensemble des pays d'Europe parce que le mécanisme de solidarité européen, RESCEU, il va se retrouver confronté aux mêmes problématiques que celles qu'on a aux échelles locales en cas de simultanéité des feux. Ça veut dire qu'il faut des politiques publiques d'aménagement des territoires à l'échelle des États européens, des régions, et pas seulement, encore une fois, tout miser sur une flotte aérienne mutualisée et ponctuellement de la solidarité européenne sur les moyens terrestres et les pompiers. Le risque d'incendie de forêt, c'est un impensé de l'urbanisme. Ça n'est pas tenable comme politique de gestion dans le contexte du changement climatique et dans le contexte de feux simultanés de grande ampleur, ce qui devient ingérable pour les services de lutte.
Pauline Villain-Carlotti, actuellement directrice d'études risque d'incendie de forêt chez Varuken, un bureau d'études spécialisé. Elle était interrogée par Juliette Pietraszewski. Vous retrouvez cet entretien sur la longueur dans un peu moins d'une heure en ligne sur notre site internet. internet rfi.fr. Et un exemple un peu plus parlant de ces problèmes d'aménagement du territoire avec la forêt des Landes composée des pins. C'est la plus grande forêt plantée en Europe et elle se révèle chaque année de plus en plus vulnérable face aux incendies, notamment Jeanne Bartoli en raison de son modèle économique.
Un modèle spécifique puisque la forêt des Landes est une forêt privée sortie de terre en 1857. Ils sont 60 000 propriétaires privés à se partager 90% de sa surface. Depuis un siècle et demi, la forêt est dominée par une monoculture, celle du pin maritime, plantée par rangées sur des centaines de milliers d'hectares pour nourrir la filière bois. Des arbres qui sont ensuite coupés par parcelles entières et replantés à l'identique. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, la présence de grandes parcelles d'arbres jeunes représente un sur-risque en cas d'incendie en raison de leur écorce fine. Le pin maritime est déjà une essence dont la résine est inflammable et dont les aiguilles sèches favorisent la propagation du feu. La question de la densité de la forêt est aujourd'hui questionnée. On estime à environ 400 millions le nombre d'arbres, ce qui accentue par endroits un effet canopée. La cime des arbres se touche, le passage du feu en est facilité. Un taux de boisement très élevé qui représente aussi une manne économique non négligeable. 34 000 emplois directs en dépendent pour un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros.
Jeanne Bartoli du service économie de RFI. J'ajoute que l'armée a été appelée en renfort dans la région. 1500 militaires mobilisés depuis hier soir. Autre conséquence de cette lourde mobilisation, la dernière étape du Tour de France cycliste raccourci de 133 à 89 km. Le peloton prendra le départ de Paris où la course se terminera aussi. Pour le côté sport, rendez-vous dans nos journaux avec Babacar Diarra ce matin. Et il n'y a pas qu'en France que ça brûle. Vous l'entendiez, l'évacuation de 8 nouvelles communes a été ordonné hier soir près de Tolède face aux menaces toujours grandissantes des flammes à l'ouest de la capitale espagnole, Madrid. Le Premier ministre Pedro Sanchez évoque une situation complexe. Là aussi, les conditions météo semblent défavorables aux pompiers. Hier, une personne a péri dans un incendie distinct de ceux dont nous parlions près de Valence, dans l'est du pays. Vous pouvez suivre les derniers développements concernant ces feux dans le sud de l'Europe sur notre live à la une de notre site internet. La marche des fiertés de Berlin, endeuillée, elle se tenait hier soir dans la capitale allemande et aux alentours de 22h heure locale, une personne au volant d'un véhicule a foncé à toute vitesse dans la foule. Le bilan, toujours provisoire, fait état d'au moins un mort et d'une quinzaine de blessés. Pas de traces pour le moment du suspect toujours en fuite, mais la police allemande affirme qu'il pourrait être lié au milieu islamiste. On y revient évidemment en détail dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, en Guadeloupe, s'est tenue pour la première fois une marche des fiertés. Plusieurs centaines de personnes réunies à Basse-Terre ce samedi dans cet archipel français situé dans les Caraïbes et réputé pour son conservatisme sociétal. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, le 26 juillet 2023. Le président nigérien Mohamed Bazoum était renversé par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Lui et son épouse Khadija sont depuis toujours détenus dans une aile du palais présidentiel à Niamey et leurs avocats exigent leur libération immédiate et sans condition. Ils s'inquiètent notamment de leur isolement et de la situation judiciaire de Mohamed Bazoum. Mohamed Sédou Diagne est avocat au barreau de Dakar et coordonnateur du collectif international des avocats de Mohamed Bazoum. Je vous propose de l'écouter.
Il a été victime de séquestration, d'arrestation arbitraire, de détention même arbitraire. Ses conditions de vie sont plus que déplorables. Il n'a pas vu ses avocats depuis 3 ans. Il ne voit son médecin qu'une fois par semaine. Il n'a pas droit à une promenade dans le palais. Il est vraiment absolument à l'isolement, coupé du monde. Et c'est une situation qui est intolérable. La junte s'entête et M. Bazoum n'est plus ni plus ni moins qu'un bouclier humain entre les mains de ses geôliers. Il n'a pas été inculpé. Il n'a pas été formellement mis en examen par un juge d'instruction. Son immunité présidentielle a été levée. On n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de contact. Et c'est pour ça que nous espérons et souhaitons que les autorités politiques de la sous-région ou les organisations internationales demande et exige sa libération immédiate et sans condition.
Mohamed Sédou Diagne, joint par Lisa Vili. J'ajoute qu'après le coup d'État de 2023, la Cour de justice de la CEDEAO, l'Union africaine ou encore le secrétaire général des Nations unies avaient déjà demandé la libération immédiate de Mohamed Bazoum. L'actualité du continent, c'est également hier le lancement à Dakar du nouveau parti politique du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Cela acte ainsi officiellement le divorce avec son ancienne famille, le passé STF de son désormais ex-premier ministre Ousmane Sonko. Le parti de Bassirou Diomaye Faye s'appelle Kirai. Comprenez bouclier ou protection en Wolof. Kirai, les patriotes républicains précisément, qui se veut un parti d'espoir et de défense de la République. Vous en lisez davantage à la une de notre site internet. Lui avait été gracié en décembre dernier par Donald Trump. Juan Orlando Hernandez, ancien président du Honduras, revient dans son pays ce dimanche. Il avait été condamné à 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue. Et s'il risque de recevoir un gros accueil par ses militants, la majorité des habitants appréhendent l'idée de ce retour. Surtout parce que les 8 années de présidence Hernandez ont été marquées par de nombreuses atteintes aux droits humains. RFI, Tegucigalpa, Marie Griffon.
Un retour qui suscite des inquiétudes.
C'est un véritable retour en arrière.
Luis a participé aux manifestations de 2017 lors de la réélection illégale de Juan Orlando Hernandez. Il s'était présenté à un second mandat, ce qui est interdit par la constitution du pays.
Lors des manifestations, il y a eu un déploiement inédit des forces militaires et policières. Il y a eu de nombreux blessés. Ils ont même ouvert le feu, et pas simplement en l'air, mais avec des balles réelles en direction des manifestants.
Au moins 23 morts selon l'ONU, 1400 personnes mises en prison. Une répression qui n'empêche pas l'ex-président de conserver des soutiens.
Nous sommes heureux pour lui, pour sa famille et pour le Honduras.
Pour l'épouse de l'ex-président, Ana de Hernandez, la grâce accordée par Donald Trump est gage de légitimité.
Aujourd'hui, le Honduras bénéficie d'une opportunité exceptionnelle. Il a l'attention du président Donald Trump, un dirigeant mondial. Et puis, c'est un acteur stratégique économique primordial pour le Honduras.
Pour l'instant, aucune manifestation contre l'ex-président n'est prévue. Pour l'Organisation des droits humains hondurienne, le COFADE, la population a peur.
Nous avons une histoire marquée par les disparitions forcées, les exécutions arbitraires. Alors comment ne pas éprouver de la crainte?
Les Honduriens redoutent également un retour de Juan Orlando Hernandez en politique au sein du Parti national qui gouverne actuellement. Marie Griffon, Tegucigalpa, RFI.
Et puis la zone euro bientôt dotée de nouveaux billets de banque. La Banque Centrale Européenne a retenu en tout 10 projets sur les 1200 envoyés à l'issue d'un concours lancé à l'échelle de l'Union. Alors à quoi ressemblent ces projets et quand arriveront-ils sur le marché? Élément de réponse depuis Bruxelles avec Jean-Jacques Herry.
Chaque série de billets proposés couvre les 6 coupures de la monnaie européenne de 5 à 200 euros. Et sur les 10 projets, 5 répondent au thème culture européenne, l'autre moitié au thème fleuves et oiseaux. Les billets dits culture séduiront sans doute davantage. Ils proposent pour la première fois l'apparition de figures européennes. La cantatrice grecque Maria Callas, le compositeur allemand Ludwig van Beethoven, la physicienne franco-polonaise Marie Curie, le romancier espagnol Miguel de Cervantes, l'artiste italien Léonard de Vinci et la prix Nobel de la paix autrichienne Bertha von Suttner. Quant aux billets dits oiseaux, ils attirent moins par leur recto, représentant un passereau ou un martin pêcheur, entre autres, que par leur verso, comme l'a fait valoir Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne lors de la présentation des projets graphiques retenus.
Au verso du billet apparaissent les institutions européennes qui rappellent les valeurs fondamentales du projet européen. Le Parlement européen, par exemple, figure sur le billet de 5 euros.
Sur le site internet de la BCE, les Européens sont invités à faire part de leurs commentaires et de leurs coups de cœur parmi les différentes esthétiques proposées, et ce afin d'aider la BCE à faire son choix définitif à la fin de l'année pour des billets qui seront les premiers nouveaux billets depuis le lancement de l'euro en 2002. Ils rentreront progressivement en circulation et n'arriveront pas dans les portefeuilles avant 2030. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Il est 6h12 à Bruxelles comme ici à Paris. Une vingtaine de minutes à passer ensemble et vos rendez-vous habituels du week-end de la chronique défense. Franck Alexandre nous révèle à quel point l'IA vient bouleverser le secteur militaire. Florent Guignard, lui, nous présente les techniques des animaux face aux fortes chaleurs. C'est dans ta nature. Zora Kelly, invitée de Corinne Manjou dans Vivre ailleurs, elle a plusieurs casquettes, escrimeuse, étudiante ou encore conseillère municipale. Mais tout de suite sur RFI, le reportage international du jour. Dans le sud de l'Angleterre, où face à un phénomène qui prend de l'ampleur, des associations de défense de la biodiversité s'organisent. Elles proposent en effet des ateliers de premiers secours pour venir en aide aux dauphins, baleines et autres phoques qui échouent sur les plages et qui se retrouvent en difficulté. Emeline Vain a assisté à l'un de ces cours. Reportage.
Une dizaine de nageurs, de l'eau jusqu'à la taille, agitent une bâche au rythme des vagues. Sur le plastique, un dauphin gonflable au réalisme frappant.
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. Et encore, le moniteur dit que c'est un jeune. Il faut faire attention à ne pas trébucher sur des rochers, à bien faire flotter l'animal sur une bâche, à le recouvrir d'un drap mouillé, puis le bercer dans l'eau. Ils peuvent mettre plusieurs heures avant de repartir.
Un dauphin adulte, c'est presque 250 kilos. Il faut au moins 6 bénévoles pour le remettre à l'eau. Ils sont une trentaine, en combinaison de plongée, casquée, à suivre cette journée d'initiation au premier secours pour mammifères marins. Sur la plage, un groupe se penche sur une réplique de bébé phoque. Charlotte retire une paire de gants de jardinage.
Moi, je travaille dans le secteur pétrolier. S'il y a une marée noire, j'aurai une part de responsabilité. Donc, je veux pouvoir aider. Ce que je ne savais pas, c'est que les phoques mordent facilement.
Sur les côtes anglaises, les échouages se multiplient. Les phoques, comme ici au sud, les rorquals, les orques et les dauphins, au nord. Chris Berry, sauveteur confirmé, déplore une tendance à la hausse.
Durant mes 5 premières années, j'ai vu un dauphin. Depuis, il m'est arrivé d'en secourir 5 en un an. Cela augmente. La surpêche est l'une des raisons, le dérèglement climatique une autre. Les poissons changent d'endroit, donc les cétacés les suivent dans des zones qu'ils connaissent mal, se perdent et s'échouent.
Les sauvetages peuvent intervenir toute l'année, à n'importe quelle. Alors, l'association des plongeurs britanniques, la BDMMA, espère recruter de nouveaux bénévoles. Louise Ronde, spécialiste du secourisme des phoques.
Les gens se baladent beaucoup sur la côte et nous recevons de plus en plus d'appels. Nous souhaitons être capables de répondre à ces appels rapidement afin de sauver autant d'animaux que possible. Donc nous avons besoin de bénévoles partout dans le pays.
Et les listes d'attente pour la formation atteignent un an dans certaines régions. Passionné de plongée, Chris Berry aimerait une sensibilisation plus générale.
Sur les réseaux sociaux, j'ai déjà vu 4 millions de likes sur la vidéo de quelqu'un qui tirait un dauphin par la queue pour le remettre à l'eau. L'intention est bonne, mais les conséquences peuvent être graves. En particulier, si vous ne savez pas pourquoi l'animal s'est échoué, vous risquez de le relâcher juste pour qu'il se noie. Il faut sensibiliser les gens, on ne fait pas n'importe quoi.
À l'issue de la journée, les bénévoles repartent avec une immatriculation de secouristes pour une durée d'un mois. Emeline Vin, le retour de Southampton, RFI.
Voilà ce reportage à retrouver comme tous les autres sur notre application RFI Pure Radio. C'est la technologie qui bouleverse tous les secteurs, ou presque depuis quelques mois. L'intelligence artificielle, le secteur militaire est lui aussi profondément transformé. Des algorithmes embarqués permettent de détecter, classifier, identifier de manière automatique des objets d'intérêt militaire en un temps record. Des systèmes prêts à l'emploi qui bousculent le tempo des opérations. Plus de détails avec Franck Alexandre dans sa chronique Ligne de défense.
La vitesse, facteur clé de la victoire, et pour atteindre cette célérité, l'intelligence artificielle est devenue incontournable, insiste le colonel Frédéric en charge du système d'information de l'armée de l'air et de l'espace.
On travaille selon une boucle opérationnelle. Alors parfois on l'appelle la boucle OODA, observation, orientation, décision, action. Globalement, c'est une boucle dans laquelle on traite du renseignement, savoir quelle est la menace. Au regard des moyens dont on dispose, on va planifier la meilleure des missions possibles. Et les outils d'IA vont permettre à l'opérateur humain de faciliter toute la réalisation de ce cycle-là.
Safran IA, ex-Préligence, développe des algorithmes prêts à l'emploi sur tout type de capteurs, souligne son directeur Sébastien Fabre, que ce soit à partir d'images satellites, de boules optroniques ou encore de capteurs électromagnétiques.
Voilà, l'IA est capable de détecter des objets, donc on appelle des observables, de savoir quel type d'objet il s'agit, est-ce que c'est un véhicule blindé, est-ce que c'est un pick-up, etc. Même de les identifier, de quel type de véhicule blindé il s'agit, de quel type d'avion il s'agit. Quand vous avez quelqu'un qui utilise une jumelle, par exemple, pour observer un terrain d'opération, l'humain peut être distrait par quelque chose qui se passe et louper l'arrivée d'un drone, par exemple. Et grâce à notre IA, on va être capable de mettre un petit cadre autour de quelque chose que l'humain ne verrait pas forcément ou serait distrait par un autre objet.
L'IA est donc un démultiplicateur de force. Prenons le cas d'un pilote, la boule optronique qui équipe son chasseur à l'instar d'une jumelle lui permet de voir loin, mais identifier ce qui est perçu, c'est une autre affaire. Colonel Frédéric.
Parfois, le pilote voit vaguement quelque chose dans le ciel. L'objectif, c'est d'aller plus vite sur la détection de cet objet. Et là, il y a des algorithmes d'IA qui montrent qu'ils voient mieux que l'œil humain. Et puis, qui peuvent, au-delà de la détection d'un objet, aller reconnaître également que c'est un avion et vérifier de quel type d'avion il s'agit. Là où l'homme, finalement, n'a pas les capacités physiques, c'est là où il faut chercher le positionnement de l'IA.
Mais si l'IA se niche derrière tous les capteurs, il faut désormais bâtir une nouvelle architecture, souligne Sébastien Fabre de Safran IA.
Si je prends simplement l'exemple de plusieurs drones déployés sur un théâtre d'opération, vous pouvez pas regarder un écran pour chacun des drones et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc un de nos enjeux, c'est la fusion de ces informations. Ce qu'on va voir arriver dans les années qui viennent, c'est la coordination de tous ces systèmes avec l'IA agentique qui va organiser les différentes IA qui sont spécialisées dans leur domaine pour en fait amener de la cohérence, de la synchronisation et de l'efficacité dans tout ça.
La course à la vitesse va aussi obliger à l'automatisation de certains systèmes d'armes, en particulier pour la lutte anti-drone, où seule l'IA pourra répondre à l'IA.
Et je précise que cette chronique de Franck Alexandre est une rediffusion et donc déjà disponible sur l'ensemble de nos plateformes. Vous le savez, ça brûle un peu partout en Europe, au Maghreb, également des feux favorisés par les fortes chaleurs. Et il n'y a pas que les humains qui souffrent de ces températures extrêmes, il y a les animaux aussi qui, face aux fortes chaleurs, ont développé des stratégies souvent ingénieuses. C'est dans ta nature, Florent Guignard.
Dans la nature, il n'y a pas la clim. Alors face au soleil écrasant, on fait avec les moyens du bord, qui sont le fruit de millions d'années d'évolution. Les termites ont inventé la ventilation. Leurs nids, les termitières, sont construits autour d'une cheminée centrale, avec tout un système de conduits plus ou moins poreux. Au fil de la journée, les termites bouchent et débouchent certaines galeries, un peu comme nous humains, quand on ferme les fenêtres la journée pour ne les rouvrir que le soir. Fermer sa porte, c'est aussi ce que fait l'escargot en période de sécheresse. Il bouche l'entrée de sa coquille avec sa bave et peut survivre ainsi des semaines sans une goutte d'eau.
Faut que je me cache du soleil, il fait chaud. Faire attention au soleil.
Face aux ruptures de stock des ventilateurs faites comme les abeilles, en période de canicule, des centaines d'ouvrières se mettent à l'entrée de la ruche en battant des ailes pour la rafraîchir. L'éléphant lui agite ses oreilles, mais ce n'est pas un éventail. C'est pour rafraîchir ses nombreux vaisseaux sanguins et ça fait baisser la température du corps. Certains animaux pratiquent aussi l'urohydrose. Autrement dit, ils se font pipi dessus et ça n'a rien à voir avec une golden shower. Au contraire, uriner sur ses pattes fait baisser la température. C'est ce que font les vautours d'Amérique, les cigognes ou encore les dromadaires. Chez le mâle dromadaire, le pénis, qui fait quand même une cinquantaine de centimètres, est dirigé vers l'arrière de manière à pouvoir atteindre les pattes arrière. Les camélidés ont d'autres trucs et astuces pour affronter la chaleur du désert. En agissant sur leur transpiration, nous humains on sue beaucoup pour maintenir le corps à 37 degrés, eh bien la température corporelle des chameaux peut varier de plusieurs degrés et c'est qu'au-delà de 40 degrés qu'ils se mettent à transpirer. Et la chaleur est telle aujourd'hui jusqu'à 50 degrés que même les dromadaires en souffrent et la mortalité explose. On termine avec le koala qui fait des câlins aux arbres. Il se serre contre le tronc, c'est rafraîchissant et c'est tellement trop mignon.
Est-ce que les oiseaux peuvent boire de l'eau non potable ?
Oui, ils sont moins difficiles que nous et leur système digestif surtout est bien plus résistant, ce qui leur permet de boire à peu près n'importe où, dans une mare, dans le creux d'un arbre ou dans une flaque. Et pour les humains, on déconseille fortement. Mais les oiseaux ne sont pas pour autant complètement immunisés. Les pesticides, les métaux lourds ou les hydrocarbures peuvent leur être fatales. Mortel aussi le manque d'eau. Alors pensez aux oiseaux avec une petite coupelle remplie d'eau du robinet à poser dans le jardin ou au bord de la fenêtre. Certains y prendront même leur bain et ça leur fera le plus grand bien jusqu'au retour de la pluie.
Comme the rain, Eurythmics, et en tout cas ce retour de la pluie, il est attendu dans beaucoup d'endroits où on lutte toujours face aux flammes. Un portrait à présent sur RFI, celui d'une femme pas comme les autres, Zora Kelly, cette escrimeuse franco-algérienne, championne d'Afrique, mais aussi à seulement 25 ans, ancienne conseillère municipale de sa ville en région parisienne et sur la fin de son parcours universitaire puisqu'elle termine une deuxième année de master en sciences politiques. Zora Kelly, invitée de Corinne Manjou dans sa chronique Vivre ailleurs, elle raconte tout d'abord comment elle vit sa double identité.
J'ai grandi avec une culture algérienne à la maison avec mes grands-parents et puis à l'école plutôt française et dans l'éducation. Je me suis toujours bien sentie en tant que française et algérienne et notamment franco-algérienne. Je me suis pas sentie forcément différente et ça reste la même chose.
En Algérie, est-ce que vous n'êtes pas parfois perçue comme une française ?
En Algérie, pas forcément, mais quand on me connaît pas, on va me parler en français, alors que je comprends très très bien l'arabe et que je peux répondre. Au début, ça étonne et puis au fil du temps, les personnes s'adaptent et elles le prennent très très bien.
Donc en Algérie, vous êtes étrangère, entre guillemets, puisqu'on vous parle spontanément français.
Entre guillemets, oui, pour les personnes qui me connaissent pas, oui.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît en Algérie que vous ne retrouvez pas en France et vice-versa ?
Le soleil. Le soleil, et puis l'hospitalité algérienne est assez différente de la France. C'est vrai que dans la culture, on est très accueillant, avec un peuple assez fier. C'est des choses que je reconnais et que je vois uniquement en Algérie.
Et en France ?
En France, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui est éducation, scolaire, le respect. Enfin, il y a plein de choses totalement différentes. Ça, c'est ses atouts et ça, c'est ses avantages, on va dire.
Et la condition de la femme en Algérie et en France ?
C'est pas la même chose, mais ça commence à changer en Algérie. Et je trouve ça super bien. La femme est beaucoup plus respectée en Algérie et elle a son mot à dire. On va dire que dans ma petite histoire, c'est les femmes de ma famille qui ont fait que je suis cette fille-là.
Pourquoi vous avez choisi de faire du sport ?
Enfin, mes parents m'ont toujours mis très rapidement au sport. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Je connaissais pas. Pour moi, c'était un nouveau sport. On est en binôme avec un adversaire et il y a un gagnant, un perdant. Donc, j'ai tout de suite accroché. J'ai jamais lâché depuis.
Et qu'est-ce qui vous a plu sur l'escrime, fondamentalement ?
C'est un sport très complet parce qu'il demande beaucoup de contrôle de soi. Il y a du respect, il y a beaucoup de rigueur, la concentration physique et mentale aussi. Mais c'était plutôt ce côté stratégie. Même jeune, je me disais qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie dans le jeu pour pouvoir gagner contre mon adversaire. Et ce côté-là ressemble un peu à un jeu d'échecs. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie de tous les jours et ça m'a forgé.
Aujourd'hui, vous êtes championne d'Afrique, d'escrime. Et pourquoi le championnat d'Afrique, vous auriez pu le faire en France ?
Ça faisait plusieurs années que l'Algérie demandait à mes parents que je joue pour eux parce que je représentais la France. Je faisais les championnats, les Coupes du Monde, les championnats d'Europe, etc. pour la France. Et puis, il y a eu aussi une petite réticence parce qu'on ne savait pas comment ça se passait avec la fédération algérienne, etc. Et puis, arrivé au lycée, j'ai dit à mes parents, écoutez, allez, on saute le pas, on va signer avec l'Algérie. Et ils m'ont dit, Zora, ok, on te suit. Et ça s'est fait comme ça. Représenter l'Algérie, c'était beaucoup plus, on va dire, un choix de cœur. C'était ma manière de montrer à ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie, qui ont vécu la guerre d'Algérie, parce que ces femmes-là n'ont pas forcément raconté leur histoire à leurs propres enfants. Mais moi, en tant que petite fille, elles m'ont beaucoup parlé de cette guerre-là, de ce qu'elles ont vécu. Donc c'était aussi ma manière de montrer à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, que moi je combats, mais de ma manière, pour le drapeau algérien.
C'est une très belle histoire, d'une autre manière. Vous continuez le combat, et c'est pour leur rendre hommage en fait.
Oui, totalement.
Comment vous voyez votre avenir ? Est-ce qu'il y a un autre sport qui vous intéresse aussi à côté ?
Non, j'ai pas d'autre sport. C'est beaucoup plus l'escrime. Et puis, on verra bien parce que cette année, je finis mon master en sciences politiques. Donc, on verra bien. Mais j'ai quand même pour projet de faire en sorte que l'Afrique se développe au niveau de l'escrime. Et ça, c'est un combat qui me tient à cœur.
Conseillère municipale en France, combattante pour l'Algérie, c'est vraiment le côté franco-algérien, le mélange là qui se fait.
On m'a jamais reproché le fait de représenter l'Algérie au sport et d'être conseillère municipale avec la France. Et je trouve ça totalement légitime, entre guillemets, parce que je me sens 100% algérienne et 100% française. Exact.
Zora Kelly au micro de Corinne Manjou pour la chronique Vivre ailleurs, 6h26 ici à Paris. Avant de retrouver Sébastien Duhamel pour le retour de l'actualité africaine, comme tous les dimanches à cette heure-ci, RFI vous propose un extrait de l'émission L'Atelier des médias. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro de la série.